Bonjour, nous sommes sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman et je suis avec Brigitte Pauvert dont le nom qui va nous dire comment on prononce son nom d'artiste Lozerek.
Comme du Varek.
Voilà. Alors Brigitte Lozerek vient de publier chez Gallimard Au diable Pauvert. Et donc qu'est-ce que... Alors, je ne vais pas lui poser la question parce que ce serait un peu lourd. C'est un livre qui raconte 40 ans d'une relation passionnelle entre Jean-Jacques Pauvert et Brigitte Lozerek. Brigitte Lozerek. C'est bien ça, n'est-ce pas?
Ben, moi, je le vois autrement. Il y a Jean-Jacques Pauvert, mais je le vois comme s'il y avait une prédestination. Parce que depuis que j'étais adolescente, j'avais entendu parler de Jean-Jacques Pauvert qui avait pris la défense d'Albertine Sarrazin insultée dans la presse. Et il avait dit que l'on soit choqué parce qu'elle a été prostituée à 16 ans, évadée de prison, elle avait fait de la... Voilà. On peut être choqué, mais qu'on la juge et qu'on l'insulte, non. Et ça, j'en avais gardé le souvenir et je m'étais dit, il faut que je rencontre cet éditeur-là. Et évidemment, je ne l'avais pas imaginé que ça se finirait par un mariage, avec des turpitudes assez considérables entre les deux.
40 ans plus tard.
40 ans plus tard, mais après 20 turpitudes.
Oui, donc vous avez un livre en projet, vous l'envoyez à un certain nombre d'éditeurs.
À l'âge de 30 ans, oui.
À 30 ans, vous l'envoyez à un éditeur. Pauvert vous reçoit.
Oui, et Gallimard et Grasset, j'en ai pas de nouvelles.
Voilà, et Pauvert se met à travailler avec vous.
Il ne travaille pas, il m'écoute.
Voilà.
Il commence par m'écouter. Et ça a duré plusieurs années. Il m'écoutait, je me remettais au travail en rentrant chez moi. Et je faisais, évidemment, de l'eau de Javel. Je faisais des pages qui n'étaient pas littéraires. Et surtout, il avait le talent de percevoir que je cachais quelque chose. Et c'est ça qui m'avait vraiment plu. Et pourtant, ça me faisait peur. Parce qu'il me devinait. Il me disait, vous ne dites pas quelque chose que vous gardez et que vous cachez. Ça m'avait impressionné. Donc je m'étais dit, il faut que j'y arrive, mais je n'y arrivais pas. Donc j'ai réécrit. Pendant, je l'ai connu, j'avais 30 ans. Et j'ai enfin pu sortir ce que j'avais à dire à 36 ans. À 35 ans, j'ai fait la dernière mouture et il est publié quand j'ai 36 ans.
Mais donc lui, c'est de la maïeutique, comme ce que fait Socrate avec les gens quand il leur pose des questions. Il vous pousse à plus de précision.
Voilà.
Et aussi, il a des jugements très abrupts comme ça qui périment ce que vous venez de faire et qui vous oblige à recommencer.
Pas très abrupt. Lui, jamais Jean-Jacques est abrupt. C'est quelqu'un qui dit les choses, mais avec beaucoup de ménagement, et il laisse presque deviner ce qu'il veut dire pour ne pas brusquer, surtout dans l'intérimaire.
Oui, et alors donc il est connu aussi parce qu'il a pu, il est le premier éditeur au monde du Marquis de Sade.
Oui.
Ah, c'est le premier qui en fait une publication officielle.
Complète.
Au complet. Et donc complète. Il a une réputation sulfureuse. Et c'est aussi un...
Il est sulfureux parce qu'il a eu lu... Et puis, Histoire d'eau.
Histoire d'eau, oui.
Et Albertine Sarrazin, qui a donc écrit ce livre où elle sort de prison à 16 ans.
L'astragale.
Elle a sauté par-dessus le mur. Elle s'est cassé le petit os du pied qui s'appelle l'astragale. Et elle est allée trouver Jean-Jacques ensuite avec un manuscrit. Elle avait 20 ans, même pas, 18, je ne sais plus quel âge. Et c'était très fort ce qu'elle avait écrit. Et je m'étais dit, il a accepté, il n'a pas jugé Albertine Sarrazin, donc moi, il ne me jugera pas. Et je n'osais pas dire un secret qui était le plus difficile du monde à dire. Et maintenant, tout le monde en parle. Mais on oublie même que c'est moi qui ai été la première à parler de l'inceste. Et c'était en 82.
Oui, donc vous êtes la cinquième d'une fratrie de 10.
Oui, la sixième.
La sixième. Et donc vous avez...
Les trois grands frères.
Et les cousins.
Et les cousins. Et j'ai commencé à 7 ans à satisfaire leurs besoins. Et en fait, on était... Ben, ma mère donc avait une sœur qui avait aussi 11 enfants. Et c'est mon père qui louait une immense maison. Et sa sœur qui avait un mari qui ne travaillait que quand ça lui chantait. Ils n'avaient pas 3 sous. Elle était enceinte. Et ben, ma mère lui a dit, viens dans notre maison, c'est une grande maison. Et là, elle avait 9 fils. Et 2 filles. Donc, je me suis retrouvée entre les cousins et les grands frères.
Et donc, vous arrêtez ces rapports incestueux à l'âge de 14 ans. Et votre premier livre sort quand vous avez 36 ans.
Voilà.
C'est un accouchement dans la douleur, à propos
voilà.
de maïeutique.
Absolument.
Parce que maïeutique, ça veut dire accoucheur.
Oui. C'était, oui. C'est... Ben déjà, c'était pour moi... C'était pour moi impensable d'en parler, puisque j'avais dû jurer devant Dieu et les hommes, et ma mère surtout, que je devais... Ma mère m'avait dit, tu n'en parles jamais à personne, même à ton mari plus tard. Et là, je me suis sentie condamnée, parce que ça voulait dire que je ne pourrais pas aimer un mari, parce que si j'aime quelqu'un, je ne lui mentirai pas, donc je n'aurai pas de mari. Et je me suis vue partir, j'avais 14 ans, et je me suis vue partir dans le désert sans jamais espérer ni l'amour d'un mari, ni... J'allais très mal et j'ai commencé à dérailler.
Donc il faut peut-être qu'on donne un petit peu, qu'on éclaire le contexte. Une famille catholique pratiquante, une mère bigote mais très ambiguë sur ces questions, un père fidèle mais qui l'engrosse à chaque fois qu'il c'est possible.
Quand il avait, ça le démangeait.
Voilà, et donc 10 enfants.
Ils étaient tous les deux bigots.
Et une mère qui se considère comme une victime.
Absolument.
Et qui crie sa frigidité, qui hurle,
elle
dégage ses frustrations sur les autres.
Oui, oui. Et moi, comme j'étais, il y avait 2 filles aînées et 2 filles à la fin, et moi j'étais au milieu avec les frères. Donc il y avait 3 grands frères, 2 petits frères. Et j'étais qu'avec des garçons, et les cousins, il y avait 9 garçons. Et qui avaient l'âge aussi, ils avaient 10 ans de plus que moi, et puis après, jusqu'à des plus jeunes que moi. Et j'ai été complètement perdue dans cette enfance-là. Et je ne devais pas montrer, je devais être très catholique. Alors je priais le bon Dieu toutes les 10 minutes pour que je ne sois pas condamnée à l'enfer. Et finalement, j'ai osé l'écrire parce que ma mère... Un jour, j'avais donc rencontré Jean-Jacques Fauvert, et puis le livre allait paraître, et je me suis dit, il faut que je les prévienne, il faut que je le dise à mes parents. Et je les invite à dîner un soir, et puis je dis à... Est-ce que vous savez, je vais publier un livre, et est-ce que saviez-vous de moi? Et ma mère, immédiatement, de peur que je le dise à mon père, me dit, tu as été la putain de tout le monde. Et le fait qu'elle m'ait lancé ça, je les ai fichus dehors, ils ne sont pas restés dîner comme je les avais invités à dîner. Et la blessure reste maintenant, de toute façon, ils sont morts, mais ils reviendraient, je les fusillerais à but portant. Mais ça m'a donné la liberté, je me suis dit, ils foutent le camp, ils sont vulgaires, et bien maintenant, je n'ai plus personne à respecter. Ça m'a ouvert la porte pour oser, enfin, écrire, et cette fois-ci j'ai fait ça, j'ai fait l'intérimaire.
Et on peut dire aussi que le père est absent d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il se réfugie dans son bureau,
il est
a
dans son
nom.
Dans son
vous
bureau.
Avez un grand besoin d'une affection masculine, et ça se reporte sur le grand frère.
Et non, c'est... non, je n'aimais pas le grand frère, je ne l'aimais pas. J'en avais trois grands frères, il y a un des trois frères que j'aimais particulièrement. Oui, mais je me réfugiais surtout, il me fallait l'image d'un père. Et je tombais dans les bras des hommes qui avaient l'âge d'être mon père. Ils avaient 40 ans quand j'en avais 20, ils avaient 50 ans quand j'en avais 30. Jean-Jacques avait 20 ans de plus que moi.
Et donc lui, qui a donc cette réputation sulfureuse, en fait...
Il est très pudique.
Très pudique, c'est ça.
Et très respectueux.
C'est charmant, c'est, il frappe aux portes, il n'ouvre pas la porte de la salle de bain sans avoir frappé.
Jamais, jamais. Très délicat, ne brusquant jamais.
Pas de ragueur, pas grossier, jamais de plaisanterie.
J'ai fait une fois, pour vous dire l'importance de son... C'est une certaine élégance dans le... Il n'aime pas la vulgarité, voilà. Tout ce qui est vulgaire, ça lui est étranger. Et une fois, ça c'est relativement récent, quand j'étais chez lui au bord de la Riviera. Je dis à un moment, on sciait du bois, on faisait des travaux de bûcheron. Et à un moment, je lui dis, écoute, je te laisse, je vais pisser, je reviens. Je l'ai choqué et il m'a répondu, pendant que tu vas uriner, je vais au lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça voulait dire, moi, le langage, le laisser aller dans le langage, il n'a jamais pratiqué ça. Et moi, tout d'un coup, dans la forêt, le naturel est revenu. Et j'ai dit, bon, je vais pisser, puis je reviens. Pendant que tu vas uriner, je vais au lieu. Et là, j'ai compris ce que ça voulait dire. Parce qu'il ne faisait pas de réflexion directe, mais il faisait sentir.
Et donc, au bout d'un moment, votre relation change de nature. Au début, vous travaillez avec lui. Pas une relation amoureuse. C'est une
non,
relation...
ça n'a pas été une relation amoureuse pendant plusieurs années.
Et ça, c'est extraordinaire, quand même.
Oui, oui. Mais parce que ce n'est pas un dragueur. C'est un homme qui apprécie les femmes, mais il ne drague pas. Il est courtois et il est très aimable. Et les dames tombent dans un filet qu'il a probablement tendu avec beaucoup de discrétion. Parce qu'il accueille la dame ensuite. Et ce n'est pas un dragueur, ce n'est pas quelqu'un qui compte, il en a eu tant et tant et tant. Ce n'est pas un dragueur.
Mais il les fait coexister.
Alors par contre, oui, il a deux ou trois femmes, il ne les cache pas, ni les unes ni les autres. Il ne s'en vante pas, mais c'est à nous de comprendre.
Oui, il n'est pas grossier.
Jamais.
Mais alors, ce que j'ai compris, c'est qu'il était aimé de sa mère et de sa grand-mère, qui se disputaient son affection.
Oui.
Et donc, on est dans un contexte, par exemple, il est votre autre. Puisque vous considérez que vous n'avez pas été aimé par votre mère, ni par votre père, et lui, il a été aimé par ses parents, donc on est dans...
Il a été un effet miroir inversé. Voilà. Chouchouté, choyé.
Donc, il est légitime. Il n'a pas du tout le sentiment d'être quelqu'un d'illégitime.
Ah, pas
il
du
a
tout.
Une très forte légitimité.
Il a une très forte légitimité. Et la grand-mère et la mère se disputaient son affection et il adorait ça. Il me l'a dit il n'y a pas si longtemps que ça. C'est très étonnant.
Et donc il reproduit cette oui, situation
de sécurité
en arrivant à mettre des femmes avec qui il a des rapports dans le même contexte. Pour qu'elles soient jalouses les unes des autres et qu'elles soient au centre de l'attention.
Absolument. Oui, oui.
C'est ça l'histoire.
C'est ça l'histoire. Et même si ce sont des ex, l'ex reste quand même pas loin. Reste pas loin. Il a une manière apparemment distante, mais toujours ce côté élégant qui ne provoque pas, qui ne... Mais qui attire, c'est la trappe-mouche, quoi. Il ne bouge pas et il est attentif. Et les femmes qui ont besoin de quelqu'un d'attentif, elles arrivent et c'est...
Et vous allez travailler dans sa librairie?
Non, parce qu'il n'avait pas de librairie. C'est...
Ouais, dans sa maison d'édition.
Dans sa maison d'édition. Et je ne savais pas que la dame qui avait le bureau d'à côté, c'était son épouse.
Voilà. Et il y a une autre dame qui lui a fait un enfant qui est là aussi.
Qui est au rez-de-chaussée.
Ouais.
Elle a une librairie au rez-de-chaussée.
Ouais.
Et je ne le savais pas non plus.
Il ne donne... c'est ça l'histoire de la librairie, c'est l'autre dame.
Oui, et il ne donne pas d'informations, mais si on devine et si on comprend, on lui dit, mais alors, et là, ben, il dit oui. Il ne renie pas. Il n'informe pas, mais si on a deviné, il dit, ben oui. Et c'est à vous de partir ou de rester. Il ne fera rien pour ni vous chasser, ni vous retenir. Et si les dames entre elles se font des chicanes, il attend que ça se passe. Comme il attendait que ça se passe avec sa mère et sa grand-mère.
Oui, c'est ça.
Ah oui, vous avez fait un juste rapprochement.
Et donc vous avez à quoi une petite décennie avec lui?
Pardon?
Vous avez un rapport intime avec lui
Ah ben j'ai commencé à 31 ans. Voilà, mais on était à Paris. Il venait passer quelques fois la nuit chez moi. Il venait.
C'était épisodique comme ça.
C'était, oui, mais je travaillais avec lui. Mais quelquefois, il retournait chez son épouse légitime. Quelquefois.
Mais après, il va rencontrer une autre femme.
Oui, mais vous allez un peu vite, là, il y a quelques années. Il y a quelques années quand même qui se passe. C'est, il y a quelques années, parce que sinon on parle d'un homme qui consomme. Et ça
non,
va.
C'est pas ça du tout.
C'est pas du tout quelqu'un qui consomme. C'est quelqu'un qui aime rencontrer. Et moi, il m'avait dit une femme, pour avoir une femme, ça ne m'intéresse pas. Mais rencontrer quelqu'un et la personnalité de cette personne, ça m'intéresse. Et alors, il aimait bien les gens un petit peu tordus, quoi. Parce que ce sont ceux qui ont envie d'écrire. Ceux qui n'ont rien à dire, ils vivent le quotidien et c'est parfait. Mais ceux qui n'arrivent pas et qui sont mal dans leurs chaussures, et lui, il les observe. Et comme c'est quelqu'un qui... Il m'a dit, j'ai toujours vécu dans la duplicité entre sa mère et sa grand-mère. Et il observe et il devine les gens. Il les observe, mais il ne leur dit pas, j'ai compris. Il agit. Il agit, il arrive au moment où on en avait besoin. Et on n'avait rien demandé, mais lui, il avait compris qu'on avait besoin.
Et donc, comme vous arrivez à écrire ce livre et à le faire publier...
C'était l'intérimaire, ça.
L'intérimaire, il transforme totalement votre vie. Parce que votre but dans la vie, c'était d'écrire un livre.
Oui,
et c'était... Et le fait de faire... C'est le plus beau cadeau qu'on puisse vous faire.
Absolument.
On ne peut pas vous offrir... D'ailleurs, il n'y a rien d'autre qu'on puisse vous offrir.
Rien.
Il n'y avait que ça qui comptait.
Un livre. La preuve, c'est que quand mes parents étaient odieux et tout ça, je me suis dit, c'est très bien, ils me rendent libre. Maintenant, je peux dire tout ce que je veux. Ils m'ont insulté, c'est terminé. Alors, ça m'a libérée presque. Ça m'a blessée formidablement. J'apporte toujours cette blessure-là. Mais je me suis dit, alors maintenant, je n'ai plus personne à ménager. Alors que je ne voulais pas... J'hésitais vis-à-vis d'eux. Elle me traite de putain devant mon père qui ne réagit pas. J'ai dit, allez, vous foutez le camp, vous sortez. J'étais très blessée, mais je me suis dit, ben maintenant, je n'ai plus à les ménager. Et j'étais libre d'écrire ce que j'avais à écrire.
Et donc, vous avez aussi, je suppose... un avant et un après, parce que vous étiez comme une espèce d'être immature comme ça, qui se cherchait, quelqu'un qui avait beaucoup de difficultés
voilà,
à exister.
Voilà.
Vous publiez un livre et vous en vendez 100 000 exemplaires.
Alors,
ça, c'est vraiment un phénomène extraordinaire.
Oui, et bien figurez-vous que ce succès m'a fait peur, parce que je n'étais pas préparée, parce que je n'étais pas assez solide. Parce que tout d'un coup, j'ai eu l'impression que les gens... qui m'abordaient, c'était surtout parce que c'était des voyeurs, je les prenais pour des voyeurs. Peut-être étaient-ils bienveillants et au contraire avaient envie peut-être de me choyer, je ne sais pas, mais pour moi c'était très très horrible. Et quand Piala a voulu faire un film, mais j'ai été terrifiée.
Ça, c'est vraiment dommage. Il voulait faire un film avec Isabelle Huppert.
On s'entendait bien, Isabelle Huppert et moi, mais elle était partie au bout du monde. Elle était elle-même en rupture avec un amoureux. Et donc, elle est partie à l'autre bout du monde. Et puis, voilà.
Est-ce que vous seriez devenu un mythe, hein, parce qu'on change de catégorie. Piala étant ce qu'il est.
Oui.
Ils ont fait une semaine sur Piala, sur France Culture.
Ah, je sais pas.
Il y a très peu de temps.
Ah bon.
Il y a 15 jours, 3 semaines.
D'accord.
4 émissions d'une heure sur Piala. c'est vraiment formidable. C'est-à-dire, enfin, c'est habité, quoi. C'est, il se passe quelque chose. Il y a quelque
chose d'alchimique.
Il y a un investissement, une qualité.
Et puis lui, c'est quelqu'un qui est direct, qui dit les choses, etc. Et moi, je ne savais pas encore me comporter. C'était tout nouveau d'être publié et d'avoir tout ce que j'avais écrit, de voir que c'était dans les yeux et dans l'entendement des autres. Ça m'a vraiment fait peur. Et quand il me posait des questions, je n'osais pas répondre parce que je me disais, ça ne se fait pas. J'étais dans l'ancien interdit et je m'étais permis l'écriture, mais l'oralité, je ne pouvais pas.
Il y a un quiproquo en fait autour du sujet. Vous parlez de voyeurisme, mais il y a effectivement... la charge, elle n'est pas libidinale, elle est beaucoup plus profonde.
Non, oui.
Le problème est beaucoup plus profond.
Oui,
ce
que
vous décrivez, c'est une espèce de chrysalide immature, comme ce que vous étiez.
Oui.
Une espèce d'immaturité maladroite, extrêmement touchante, comme ça.
Très maladroite.
On pourrait penser à d'autres profils que celui du père.
Un peu effarouché.
Oui, quelqu'un qui c'est cette maladresse.
Parce que je ne comprenais pas l'intention de celui qui était devant moi.
Et puis l'absence de désir aussi, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas...
Je ne savais pas quelle était ma limite dans les confidences. Je pouvais aller très loin et ça devenait indécent, et moi je m'en rendais pas compte. Et quelquefois, comme j'avais conscience après, a posteriori, que j'avais été jusqu'à l'indécence dans ma confidence, après j'osais plus le dire quelque chose. Alors on me demandait, et j'étais toujours à faux. En vérité, j'étais toujours à faux.
Il y a quelque chose qui... Vous restez sur une espèce de frontière, vous marchez sur un fil. Par exemple, vous continuez à avoir un attachement à cette vie familiale, à cette vie de groupe. Vous ne devenez pas marginal. Ce qu'on voit dans les films de Piala, c'est la rupture franche, très souvent. On rompt avec le milieu dont on vient,
on rompt avec
le passé, et vous restez quand même attaché à un certain nombre de valeurs.
Je reste attachée, je ne sais pas aux valeurs, mais la solitude, vous êtes arrachée à toutes les pieuvres et tous leurs tentacules, tous leurs machins. On me les arrache, mais je ne sais pas que faire puisque je n'ai plus rien qui m'accroche. Et j'ai l'impression d'être le ballon qui va s'envoler à la faveur des vents.
Mais vous gardez votre famille nombreuse. Par exemple, dans l'intérimaire, vous décrivez quelqu'un avec qui vous travaillez, qui est seul au monde. Et pour vous, c'est quelque chose de dramatique. Donc vous ne faites pas le choix de la rupture, de la marginalité, justement. Ces valeurs restent en vous.
Et j'avais le manque de... J'étais très blessée de n'avoir pas été comprise. Très, très blessée. Au lieu de dire, ah, bonjour, tu viens de nous dire ça, et maintenant je comprends mieux pourquoi tu étais... Et là, non, tu as été une putain. Clac, pour fermer le dialogue, devant le père. Et elle me l'avait dit. Elle m'avait dit, quand le curé m'avait dit, faut dire à votre mère ce qui se passe, je lui avais dit, comme ça... parce qu'il y en avait jusque-là à dire, et elle m'avait dit, on va dire une dizaine de chapelets, et tu gardes ça pour toi, même plus tard pour ton mari, tu ne dis rien. Et là, elle a vu que j'allais à 30 ans, j'ai dit, maintenant, ça y est, je vais parler. Et là, elle a cru qu'en me disant que j'étais une putain, elle allait me faire, oh non, maman, non, 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 s'il te plaît, embrasse-moi. J'ai dit, dehors. Et mon père qui disait rien, c'était un lâche, dehors.
Et donc vous écrivez 250 pages pour expliquer pourquoi vous aviez oublié votre cartable un jour, vous êtes arrivé à l'école sans votre cartable parce que vous n'étiez pas vous-même.
Je suis toujours à côté de
vous. Au lieu qu'on vous réconforte, on pense que vous faites de la provocation, que vous jetez du scandale à la figure des gens,
oui.
Alors que c'est le contraire, que votre acte est un acte qui se veut d'explication, de réconciliation.
Ce n'est que ça tout au long de ma quête. Et la quête s'est arrêtée le jour où j'ai été la putain de tout le monde. Ça a été le couperet, et c'est elle qui s'est coupée. Moi, j'ai eu tout d'un coup des ailes qui ont commencé à pousser. Et là, je me suis dit, j'écris. Alors là, j'ai écrit comme... Je n'avais plus besoin de me censurer. Le pire était fait. Mais alors maintenant, dans celui-ci, c'est évidemment tout autre chose.
Oui, c'est... C'est une relation.
C'est que, justement, à partir de cette confiance que j'ai eue, où je lui ai tout dit à lui, à Jean-Jacques Fauvert, je lui ai tout dit comme ça un jour dans un bistrot, mais alors, où il n'y avait pas de bruit, c'était très sélect, c'était au bar du Pont-Royal, tout ça c'est en velours, les gens ne font pas de bruit, c'est très, très feutré. Et là, ben, je lui ai dit. Il m'a dit, écoutez, ce ne sera pas facile, mais ce ne sera pas non plus l'arc de triomphe à avaler. Mais il m'a dit, je serai là, quand vous en aurez besoin, je serai toujours là. Alors dans ce cas-là, quand vous êtes sorti du giron et que vous êtes dans l'espace, un ballon sans direction que les vents, vous avez quelqu'un qui vous dit, je suis là, vous vous accrochez.
Et en même temps, il n'y a pas de... Il va aussi récuser l'intérêt de la chose en soi. Il cherche vraiment à arriver à ce que ça soit complet, profond, organique, que ça sa propre autonomie. Parce que ce n'est pas un succès de scandale, c'est pas simplement...
Non, c'est pas ça qui était cherché.
Ça l'intéresse pas, c'est quelque chose qu'il va repousser. Donc c'est vraiment des phases. Hein. Quand je parlais de maïeutique,
oui.
C'est phase après phase.
Oui. Et puis en plus, moi, j'aurais pas voulu non plus. C'est pas que j'aurais pas voulu, je n'en étais pas encore capable. Je n'aurais pas été capable. Et simplement, j'ai compris que, au bout de quelques années, j'ai compris qu'il était très lassé de ma dépendance à son attachement.
Oui.
J'étais très dépendante de tout, je ne savais plus est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça. J'attendais la permission pour toute chose. Et j'ai compris qu'il avait pris un petit peu de large quand c'était trop lourd et que le livre était sorti. Sa tâche était accomplie. Il aurait été plus loin si j'avais encore attendu 3 ans, par exemple. 3 ans, 4 ans. Je suis sûre qu'il aurait tenu jusqu'au bout. Mais là, déjà, j'ai mis plusieurs années. Il a tenu et il m'a un petit peu déposé comme ça maintenant. J'avais acheté un appartement, tu es logé, tu as ton livre, tu gagnes ta vie. Il est parti très, très doucement sur la pointe des pieds. Et puis voilà. Et on le sent, ça.
En même temps, il y a quelque chose qui revient dans votre dernier livre, par exemple, aussi. Il vous fait des demandes et vous les refusez. Vous avez votre côté caractériel qui revient.
Attendez,
il voudrait vous voir écrire tout le temps, par exemple.
Oui.
C'est dans l'intérimaire, ça.
Il m'a dit oui.
Il imagine après que vous allez devenir une petite usine de vous-même.
Voilà.
Et vous refusez. Vous avez une pureté, une...
Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Et j'ai écrit...
Vous devez vous remettre, en fait. C'est un accouchement douloureux.
Voilà.
Il faut vous remettre. Il y a des séquelles.
Oui.
Il y a des
séquelles. Oui. Et j'ai fait ensuite un très mauvais livre. Et il m'a dit, tu m'as déçu.
Ça fait de l'apprenti, là.
Oui. Il m'a dit, tu m'as déçu. Et que je le savais. Alors, c'était encore plus triste et plus grave. Et j'avais encore plus envie de lui dire, non, s'il te plaît, ne me quitte pas pour ça. Tout ça. Mais c'était foutu.
On n'a pas dit aux gens, peut-être qu'il faut créer le contexte global. En fin de vie, vous allez vivre avec lui et il va vouloir vous offrir quelque chose. Et il va vous épouser. Alors, ça, c'est les dernières années.
Une fois qu'il a... D'abord, il a perdu son fils, ce qui a été grave...
Il a un fils qu'il adore et qui se noie au large de l'île
de
35 ans.
Voilà. Et ce fils...
Et c'est la seule personne qu'il aime. Par exemple, il n'est pas sympa. Alors peut-être qu'on ne faudrait pas dire ça, mais il est particulièrement chaleureux avec les autres gens, disons. Et lui, il l'adore vraiment.
Lui, c'est vraiment une passion. Il a une passion pour son fils.
Il se passe quelque chose.
Il me l'a présenté, le gamin avait 14 ans. Et quand le gamin en question a passé le bac, entre le moment de l'examen et les résultats, il y avait une semaine. Et nous sommes allés tous les trois, lui, son fils et moi, dans sa maison du midi. Ce qui était pour moi le comble du comble. Mais je crois que là, rien ne m'arrêtait. Je pouvais... pour être avec lui, de toute façon, je pouvais me damner. Je pouvais me damner. Et donc, j'ai habité dans la maison de monsieur et madame, alors que j'ai découvert, après des mois de travail avec lui dans sa maison d'édition, j'ai découvert que la dame qui avait le bureau en face du sien, c'était son épouse. Mais il ne me l'avait jamais dit. Il ne me l'avait jamais dit, voilà. C'est quelqu'un qui... Il ne dit pas en rien, il ne dit pas les choses, il ne donne pas d'informations. Mais si vous découvrez, eh ben, tant pis pour vous. Si vous avez compris, c'est comme ça. Et elle ne savait pas et elle l'a appris aussi accidentellement quel était mon rôle dans sa vie.
Mais donc vous lui résistez aussi, c'est ça que je voulais vous dire. À un moment donné, donc, dans cette fin de vie, quand vous êtes avec lui, vous vous mettez à dessiner un après-midi et il vous trouve très doué et il veut vous acheter du matériel, il veut que vous continuiez. Et vous, vous dites non. Qu'on vous fait une injonction à faire quelque chose, il y a quelque chose en vous qui se révolte.
Ce n'est pas une injonction. C'était par intérêt, par gentillesse. Il m'a dit, mais tu es doué. Il m'a dit, tu es doué, c'est magnifique tout ce que tu fais. Et moi, je ne savais pas qu'il avait l'intention de m'offrir du matériel de dessin. Mais il m'emmène faire des courses. Et puis, il s'arrête là devant un marchand de tout, comme chez Adam, là, à Paris. Tout ce qui est des arts.
Le géant des beaux-arts.
Le géant des beaux-arts. Et il me dit, ben, choisis. Alors, tu veux des carnets à dessin, tu veux des pinceaux, des feutres, tout le matériel. Il me proposait tout le matériel, tel cadrage, tel ceci, tel cela. Ça m'a paralysée. Mais il m'obligeait pas, il voulait me faire plaisir.
Oui, je sais, mais vous voulez pas... Il y a quelque chose en vous qui résiste.
Il y a quelque chose en moi qui a résisté, parce que ça devenait, puisque je te l'offre, ça veut dire qu'il faut que tu le fasses. C'est comme ça que je l'ai interprété, et j'ai dit non, alors je suis partie avec deux crayons, mais il était déçu, et je n'ai plus dessiné. Il m'a dit, tu ne dessines plus, tu n'écris plus.
Et un jour, vous lui demandez s'il est obsédé sexuel, il répond oui.
Oui, il m'a dit, on peut dire ça comme ça.
Oui.
C'est toujours nuancé, il n'est jamais catégorique.
Oui, bien sûr.
C'est quelqu'un qui n'est jamais catégorique.
Alors moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est sur la fin de vie, il n'avait pas d'amis. C'est un homme à femme qui a un harem et pas d'amis.
C'est beaucoup dire parce que dans un harem, tout le monde est ensemble et s'accepte.
C'est pas le cas du tout.
C'est pas du tout le cas. C'est cloisonné.
Ouais, très cloisonné. Et puis en rivalité, ça ne doit pas être très agréable non plus.
Non plus, mais si on ne devine pas, c'est pas lui qui va vous le dire.
Oui.
Alors, on devine...
Non, c'est pas un pachin, c'est pas ce que je dis.
Non, c'est pas le pachin.
C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'il n'a pas d'amis. Il n'y a pas le côté masculin.
C'est pas quelqu'un qui entretient l'amitié. Non. Et il y a beaucoup plus de gens qui ont cherché à lui plaire.
Il a des groupies, par contre.
Oui.
Il a des groupies.
Oui.
Des gens qui l'admirent pour des raisons.
Voilà.
Évidentes.
Oui.
Il est ami avec Annie Lebrun.
Alors ça, c'est Annie et son mari. C'est le trio. Vous le connaissez, vous avez entendu parler.
Ben, je les ai vus deux, trois fois pour d'autres raisons.
Ouais.
On a des amis communs. Enfin,
d'accord. Sais.
Et puis on est dans ces histoires de bord, de situationnisme.
Ah oui, d'accord.
Donc,
Radovan et Annie étaient extrêmement proches de lui, intellectuellement et tout. Et c'est la seule pour laquelle il m'a dit, il n'y a rien entre elle et moi. C'est toujours, et je n'ai jamais eu de problème avec Radovan. Et je me disais, tu le dis peut-être un peu trop. C'est drôle. Parce qu'il ne l'avait jamais fait ce distinguo. Il ne m'avait jamais précisé ses relations avec elle. Je devinais ou je ne devinais pas. Et ça continuait comme ça. Et là, je me suis dit, c'est que il se protège peut-être parce que je sais qu'il a aimé Annie. Il l'aimait.
Mais ils ont cette passion commune pour le marquer de ça.
Voilà.
Au moment où il meurt, elle fait l'exposition à Orsay qui était magnifique.
Absolument. Absolument. Ah oui, vous savez plein de choses. Mais ça, c'est... Ils avaient en commun cette histoire de Marquis de Sade. Et puis, c'est quand même à Radovan et Annie qu'il a téléphoné immédiatement après la mort de son fils. Ils disent, venez, je ne peux pas rester sans vous. Venez. Et ils sont arrivés là, tac, direct.
Ah oui, il était trop, c'était trop, trop horrible. Et Annie et Radovan, c'était ce qu'il avait. Ce sont les seuls amis qu'il a eus. Ça, par contre, je peux l'affirmer.
Et donc, il a des relations avec des femmes, pas d'amis, et il aime ce couple. Et aussi, quand vous lui demandez les gens qu'il admire, il répond André Breton et Salvador Dali. Et Annie Lebrun, c'est le surréalisme, quoi. C'est une espèce
c'est,
de survivance.
C'est ça, ils ont ça, été.
C'est
voilà.
Breton.
C'est tout ça.
Et Debord, puisque Pauvert publie aussi Debord. Quand Debord se fâche avec les héritiers de Les Bobicis, c'est Pauvert qui s'en occupe, qui fait le go-between avec Gallimard.
Eh bien, je ne savais pas, parce que de toute façon, il raconte. Il ne se vantait pas trop de ses propres. Accidentellement, il en parlait comme ça.
Mais il fait juste l'intermédiaire, en fait.
Voilà, oui.
Parce que Debord a dit pique-pendre des héritiers Gallimard. Enfin, il est complètement injurié, mais par écrit, c'était publié. C'était,
ah oui, ah bon.
C'était très, très violent. Et Pauvert, diplomate. Mais Debord aimait l'argent. Puis Gallimard, c'est prestigieux. Enfin,
Oui. Oui, il ne paye pas des masses, hein. Mais bon, c'est comme vous dites, c'est prestigieux. Et donc, lui, quand j'étais là-bas, c'est peu à peu. Au début, j'étais la Brigitte d'avant, quand je venais chez lui, parce que je savais qu'après la mort de son fils,
il était... Quel âge quand son fils meurt ?
Alors, son fils...
meurt à 35 ans ?
Il meurt à 35 ans. Attendez, alors là, quand son fils est mort, faut que je me rappelle quel âge j'avais, parce que je sais que Jean-Jacques avait 20 ans de plus que moi. Donc, je revenais de Bretagne. Ah oui, c'est en 2001. Entre 2000 et 2002, par là.
Donc, il a 70 ans.
Ouais. Ouais, par là. 26, il est de 26. Alors, il a un petit peu plus. Et c'est...
74 ans.
Oui.
Et là, vous allez le voir tout le temps, quoi.
Alors là, je me suis dit, je le connais. Son fils, c'était la seule personne qu'il aimait au monde. Il ne faut pas le laisser seul. Parce que je me disais, il va faire une connerie. Et là-dessus, il a fait un AVC. Et quand on parlait de son fils, on disait ton petit. Je disais, t'as voulu rejoindre ton petit. Il m'a dit, oui, j'y ai pensé plus d'une fois. Alors, son petit, là, je me suis dit, quand ses enfants viendront en vacances, moi, je partirai de chez lui. Et quand ils rentreront à Paris, je viendrai près de lui. Mais c'était vraiment pour une protection, parce que ça me faisait plaisir. Au début, c'était pas drôle, parce qu'il était que dans ses pensées toute la journée. Et à un moment, je me suis fâchée. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai dit, moi, je suis pas là pour te servir. Si tu n'as rien à me dire, moi, j'ai rien non plus à faire chez toi. Alors, je suis partie un jour plus tôt que prévu, parce que je savais que la femme de ménage venait dans l'après-midi et que ses enfants arrivaient le lendemain. Donc, je ne le laissais pas trop longtemps seul. Mais j'ai marqué le coup. J'ai dit, écoute, alors maintenant, tu n'as rien à me dire. Moi, je ne suis pas là pour te servir la soupe. Je prends le train demain. Je prends le train cet après-midi. D'ailleurs, j'avais ma voiture. Je pars maintenant, là, après le repas. Et quand je suis partie, il était écrasé dans son canapé, mais il m'a regardé, tu reviendras. Il m'a dit ça comme un noyé. Ben, j'ai dit, ça dépendra de toi. C'était la première fois que je prenais une position ferme et qu'il m'opposait un peu à lui. Parce que sinon, j'ai piqué des colères, mais comme le gosse qui pique sa colère et puis qui revient avec maman.
Vous avez
fait
des scènes de jalousie plus jeune ?
Je ne crois pas.
Non.
Parce que c'était fait avec tellement de naturel, et puis c'était moi qui le devinais. Donc c'était trop tard, j'aurais dû faire une colère au début de notre relation quand j'ai appris qu'il y avait ça.
C'était pas dangereux.
C'était...
Et alors, il publie le premier tome de ses mémoires, hein, ça marche bien.
Oui, oui.
Il n'écrit pas le deuxième tome parce qu'il devrait parler de la mort de son fils, c'est ça.
Moi, c'est ma conclusion. Je n'engage que moi. Mais j'ai l'intime conviction que s'il allait plus loin, étant donné qu'il avait écrit le premier tome, bon, c'est une chose, mais après, son fils, après son deuxième bac, il y avait deux bacs à l'époque, après le deuxième bac, son fils a travaillé avec son père. Et il a été salarié par la boutique, la boîte de son père, ou etc. Et là, je me suis dit, il ne faut pas le laisser seul. Alors, je revenais quand les enfants partaient retournaient chez eux à Paris. En ses enfants, sa fille et les petits-enfants.
Et donc, peu de temps avant sa mort, il publie une édition du Sade vivant,
voilà,
et il a un moment de gloire. Quoi.
Il a un moment où tout d'un coup, il ressuscite.
Il ressuscite et il passe et à la télé, à la radio.
Oui, oui.
Il y a beaucoup de la grande presse écrit des articles sur lui.
Absolument. Là, il y a une grande... Et il était dans un bonheur, mais dans un bonheur, il a été tout d'un coup, il a existé. J'apportais, il regardait les articles, il y avait sa photo. Il était très très heureux, très heureux. Mais, au bout d'un mois et demi peut-être par là, maximum deux mois, c'était fini, il n'y avait plus d'articles. Et j'ai vu mon petit père Jean-Jacques... s'assombrir, j'ai vu tout d'un coup le voile noir qui tombait sur lui. Et alors, il était chez lui, tournait un petit peu en rond. Moi, j'allais avec, j'emmenais, parce qu'on allait faire, il allait scier du bois, il remplissait toujours son bûcher plein de bois avant l'hiver, etc. Je l'occupais à ce qu'il aimait faire, et moi, j'adorais ça. Je suis une fille de la nature, moi. Donc, on allait tous les deux, et là, on était ensemble, on existait ensemble, on faisait de la... On devinait l'un l'autre ce qui était à faire. Et puis, à partir de là, à partir de tout ce travail dans les bois, on était beaucoup plus proches. Plus proches dans le... Attendez, je vais regarder qui c'est, juste. Allô, Majimi, je suis en interview. Attends, j'entends rien, hein? D'accord, je te rappelle après.
Il y en a encore pour 20 minutes. Et donc, il bricole aussi.
Il était sculpteur. Avec n'importe quoi, il faisait des sculptures.
Mais il ne s'y attache pas, il les laisse dépérir.
C'est affreux, hein?
Ouais.
Et alors moi, au début, quand je voyais ça sous la pluie, c'était des sculptures en ferraille.
Voilà, il achète de la ferraille en gros.
Il
fait des insectes avec, il fait des sculptures.
Ah, c'était magnifique, mais magnifique. Je crois que j'ai une photo là, mais il n'en restait plus qu'un quand je suis partie. Et là, j'ai demandé à sa fille quand même. J'ai dit, je n'ai rien emporté de la maison, est-ce que vous permettez que je prenne cette petite sculpture? Je voulais le donner à mon fils, mais je vais vous le donner. Le petit truc pour donner un remords, là. Bon, voilà, je vais vous montrer peut-être après, je vous montrerai les photos. Et on faisait donc du travail de bûcheron, et alors on adorait ça tous les deux.
Et du jardinage aussi.
Il n'y a pas de jardin. Tout est sauvage. Alors, il y a juste la terrasse qui est dallée. Un muret devant et le terrain extrêmement en pente au pied de cette terrasse et de ce muret. Et là, la vue imprenable sur les îles, c'était sublime ici.
On voyait l'île de Levant.
Oui, on voyait l'île de
Levant. Il y a un roman de Conrad qui se passe là.
Ah oui.
Où il décrit sans arrêt la vue. Enfin, c'est très important, c'est une histoire de bateau. Et c'est très important, c'est l'île du Levant. J'ai écouté ça il n'y a pas longtemps.
C'est sublime.
Frère de la côte, ça s'appelle.
Tiens, regardez. Là, attendez.
Là. Et donc, mais on est à la radio, là, on ne peut pas la montrer. Ah oui, c'est effectivement.
C'est mon dessin.
Très, très bien. Mais je vois des plantes quand même, il n'y avait pas de plantes.
Bah, il y avait des petits, mais c'est des plantes grasses.
Des
plantes grasses qui ne demandent aucun soin. Et donc, voilà.
Et donc, oui, alors vous lisez la correspondance de Flaubert là-bas.
Alors, à un moment, c'est ça qui a été...
La correspondance complète de Flaubert.
Ah oui, 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 parce que...
Beaucoup de passion pour cette correspondance.
Ah oui, et c'était... Alors, une fois que j'étais tout à fait détendue et à l'aise, et je lui ai dit, mais écoute, j'ai envie de lire, qu'est-ce que tu me suggères? Je voudrais quelque chose de costaud, de bien, là, comme les grosses biographies. Ben, il me dit, écoute, si tu veux du costaud et pour un gros... Tu commences à lire la correspondance de Flaubert. Alors je lui ai dit, mais c'est le plus emmerdant avec sa Bovary. Et j'ai envoyé Flaubert au GN. Et il me dit, écoute, tu lis les premières pages. Si ça t'embête, tu le laisses. J'ai commencé. Je n'ai pas pu m'arrêter. Et au bout d'un an, je lui ai dit, ça y est, je suis au bout. Et il était très, très fier. Et là, ça l'a presque rassuré sur moi. Après, j'ai lu la correspondance de Pierre-Louis.
Une biographie de Maupassant.
Ah ben, mais de toute façon, les biographies, j'adore ça. J'aime beaucoup.
Et alors moi, j'étais tombé amoureux de Louise Collet. Donc, j'ai fait une heure d'émission avec une dame qui a écrit une biographie un livre sur Louise Collet.
Ah oui.
Elle est bien, Louise. Enfin, moi, je trouvais que le rapport qu'elle avait avec Flaubert...
Oui, elle m'agaçait un peu.
Ah non, alors ma maman, je suis un mec, donc son côté allumant, c'est assez...
Oui, c'est ça. Ouais. Puis elle l'énervait, après, il revenait, il lui écrivait des lettres très fâchées, écoute, et ceci et cela.
Bon,
et
il puis est fou après... quand même, il aime sa mère.
Pardon ?
Il est assez fou dans le genre, dans son rapport aux femmes.
Oui.
Il est assez spécial.
Oui, c'est... Moi, j'aurais pas aimé être une...
Ouais.
Non.
Ah, il n'a pas de rapport avec les femmes à part sa mère.
Et à part son amour de jeunesse,
oui,
à 14 ans, vous vous rappelez
c'est quand même son voyage avec Maxime Ducamp.
Oui.
À propos d'amitié masculine. Voilà un bel exemple de quelqu'un qui a des amitiés masculines extrêmement prenantes.
Louis Bouillet.
Il aime les mecs. Grosses passions. C'est très, très important.
Louis Bouillet, c'était son ami de cœur le plus proche et qui l'avait soutenu pendant toute son écriture de Bovary. Oui. Louis Bouillet. Mais
il aime. Puis il y a tous les Goncourt, les rapports qu'ils ont. Enfin, ils sont
le misogyne les uns. Le Goncourt se foutait de lui, quand même.
Oui, mais c'est quand même. Alors, je viens de lire le bouquin sur la biographie qui est sortie des Goncourt, elle est bien.
Ah bon ?
C'est thaïlandais.
Ah bon ?
Et c'est quand même le mec qu'ils estiment le plus.
Ah oui ?
Ils ne sont pas si cons qu'ils en ont l'air. Ben, c'est celui qui a écrit le mieux, quoi. Ils sont obligés de reconnaître qu'il est.
Parce qu'ils se foutaient de lui, hein, quand même.
C'est des commères, donc ils disent du mal de tout le monde. Mais c'est superficiel. C'est comme.
Ouais.
C'est vraiment des ragots superficiels. C'est des ragots superficiels. Mais Flaubert touche une couche profonde chez eux. C'est l'attachement à l'écriture. Et ils sont. Enfin, et nous, ceux qui surveillent. Oui. Il est attaché à l'écriture, quand même. C'est. Comme vous, comme les gens qui écrivent, comme moi, il se passe quelque chose.
Oui.
Alors, je parlais de Debord, il était contre la rédemption par l'œuvre. C'est la question que pose l'intérimaire, quoi.
Ah.
Ça n'a pas vraiment marché. S'il était pour la vraie vie, contre les fausses valeurs qui sont les valeurs de l'art, l'art devait être réalisé dans la vie.
Je ne suis pas plus soucié de l'art dans mon écriture de l'intérimaire.
Non, mais la rédemption par l'œuvre, oui. Puisque ce qui vous faisait tenir, c'était l'idée d'écrire un livre.
C'était l'idée d'écrire. Et c'était pas l'idée d'écrire, c'était la nécessité d'écrire.
Ouais.
Parce que c'était pas une idée. Je me suis pas dit, tiens, je vais écrire ça. Il faut. Sinon, je n'aurais pas... C'est ça qu'il faut souligner. Je n'aurais pas demandé à rencontrer Jean-Jacques Pauvert si je n'avais pas eu l'idée d'écrire par nécessité. C'était urgent.
Mais un psy aurait pu résoudre le problème.
J'en ai vu 5, 6.
Donc ça marche pas.
Ça marche pas. Ouais. Parce que je peux pas le donner. Je peux pas donner, tandis que dans le livre, je peux donner.
Donc c'est ça, là.
Ben, sans doute.
Et donc là, vous importe, c'est ça.
Oui.
Là, on m'apporte pas.
Non, parce que je ne me suis pas dit. Non, attendez. Je ne me suis pas dit, je vais écrire un livre d'art. Je me suis dit, j'écris un livre. Voilà. C'est comme le peintre, il se dit pas je suis en train de faire une œuvre.
Non, un chef-d'œuvre, c'est pas.
Non, il s'en fout de se faire un chef-d'œuvre, mais il le fait.
Et puis il est pas content de ce qu'il fait.
En général.
Et il recommence le lendemain. Puis il s'en veut, lui il voit ce qui marche pas.
Oui, oui, ben voilà.
Il n'est pas le public, mais lui ce qu'il voit c'est qu'il essaye de faire.
Voilà.
C'est le truc de Giacometti, c'est magnifique.
Ah ben voilà.
Beckett, Giacometti, enfin les mecs ils ont fait leur fond de commerce avec ça.
Ben oui, alors attendez, je vais vous montrer. Je vais le montrer parce que j'ai d'autres dessins. Il y a Jean-Jacques. Ça aussi, c'était juste le petit buisson devant.
C'est magnifique. Oui.
Hein? Voilà. Ça, c'était.
On sent bien dessus. Oui.
Et les trois arbres, simplement les trois troncs d'arbres.
Et vous n'êtes jamais remise à dessiner?
Ça y est, je me suis remise à dessiner, mais très peu, très peu. Ben oui, celui-là, vous le connaissez.
Et alors, vous dites qu'à un moment donné, vous avez comme un avant-goût d'éternité dans le rapport que vous aviez les deux.
Ah, mais alors,
à
c'était...
Moment, il y a eu un moment de pacification totale. Il y avait plus
totale
de...
et d'être en dehors de tout et en harmonie. Et je rêvais de l'harmonie et j'ai eu l'harmonie. Alors, en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'il y avait une prédestination entre nous. Parce que quand vous voulez, vous entendez à 15-20 ans qu'un homme comme ça existe et que vous vous dites « je voudrais le rencontrer ». Alors quelquefois on veut le rencontrer, il vous dit bonjour, il vous dit bonjour, ce soit lui, soit moi qui est déçu, ou on n'a rien à se dire, pas plus que ça. Tandis que lui, c'est lui qui m'a dit « il n'y a rien dans votre livre, mais si vous recommencez, je le lirai ». Et ça m'a donné le goût de recommencer.
Mais en même temps, il avait un intérêt pour vous. Il a entendu quelque chose.
Il a entendu quelque chose parce que vous savez, c'est que seulement un an après qu'on a été amants. Il ne m'a pas sauté dessus. Hein.
Eh oui, ça,
c'est pas quelqu'un qui saute sur une... Sur...
Non, on est d'accord, il n'était pas dragueur.
Il n'était pas dragueur. Non, il n'était pas dragueur, pas vulgaire.
Grand.
Mais
il arrivait toujours à l'heure.
Il arrivait à l'heure, à tous ses rendez-vous.
Il ne faisait pas de bruit en marchant. Il avait un air nonchalant. Hein.
C'était...
Il ne faisait pas attention à ses fringues.
Oui, et c'était un héron au long bec qui avance comme ça.
Vous trouvez quelque chose d'asiatique, puisqu'on parle de dessin.
Oui, et bien figurez-vous que c'est pas. Il a les yeux bridés, mais curieusement, c'est que en fait, il a des ascendances noires.
Ah oui, noires, comme la Réunion ou la Martinique.
Dans le genre, parce que sa grand-mère était. Petite fille ou petite fille d'esclaves d'un Amérique, des esclaves noirs.
Maternelle ou paternelle?
Je pense que c'est le côté paternel. Je crois que c'est le côté. Je veux pas me prononcer, mais.
En plus, ça ne m'avance à rien. J'ai posé la question.
Oui.
J'ai un copain qui a des grands-parents noirs.
Oui. Il avait le nez épaté, il avait les yeux bridés et il n'avait pas de lèvres. Ça, c'est très étrange parce que c'est pas le propre des Noirs. Mais enfin, il avait en tout cas peut-être cette façon droite. Ils se tiennent droit, les Noirs, ils sont beaux.
Vous avez été en Afrique ?
Je suis allée en Afrique du Nord. Tunisie. Non.
Alors, les boucouliers sont petits, difformes. C'est très frappant, par exemple, quand on est à Abidjan. Si on voit un noir américain, la différence, c'est qu'il crève les yeux, mais c'est une question d'éducation, d'environnement sanitaire. Ils sont très différents les uns des autres. Nous, on arrive à faire la différence entre la Bretagne et la Normandie, par exemple.
Oui.
C'est du même niveau, on passe d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre.
Mais c'est
et
vrai
que. Les gens qui habitent sur la côte ne sont pas comme les gens qui habitent en pleine terre. C'est très, très différent.
C'est curieux parce que c'était jamais. Jamais, il ne connaissait pas la précipitation. Il partait à l'heure. Il était à l'heure pour ses rendez-vous et il y arrivait sans courir. Il arrivait. Toujours d'une démarche droite, une très belle silhouette. Et moi, c'était un visage que j'ai. Un jour, je crois que c'est Bernard de Fallois, qui disait « Il est beau ». Et moi, je lui ai dit « Vous trouvez ?» Mais ça m'est sorti de tout cru comme ça.
J'ai oublié de dire aussi, François de Sagan vous dit « Je vois bien la façon dont il vous regarde, qu'il est amoureux de vous ».
Oui, oui. C'était joli, c'était...
C'est une experte, je veux dire. François de Sagan, oui. C'est son
c'est rayon.
C'est sur quoi elle travaille. C'est,
voilà. Et moi, elle m'avait dit « Mais si, la manière dont il vous regarde, il est amoureux de vous, moi je le vois. » Mais bon, elle aurait bien voulu que ce soit du côté d'elle qui regarde. Mais bon, c'est...
Et donc toujours cette rivalité avec toutes les femmes.
Toujours.
Toujours. Vous il rentrez arrivait... dans un endroit, hop, rivalité avec toutes les femmes.
Il fabriquait ça, mais le plus naturellement du monde. Parce qu'il était d'abord... Il était amen, attentif, à l'écoute, patient, et il donnait l'impression qu'il avait toujours le temps. On avait l'impression qu'il s'occupait
que... Il était disponible pour vous, c'est ça.
Pour la femme avec qui il avait rendez-vous.
Ce qui est très gratifiant quand même qu'on s'occupe de soi.
Ben voilà, et Françoise Sagan, comme elle n'arrivait pas à écrire et tout ça, il venait, il était à sa disposition. Il était disponible pour parler, pour lire le manuscrit, pour ceci, pour donner des conseils et tout. Et elle, évidemment qu'elle aurait bien tiré sur la sonnette. Mais elle lui téléphonait trop. Elle l'a harcelé, il n'en pouvait plus à la fin. Mais elle lui téléphonait même la nuit. Donc à la fin, il en avait, il c'était trop. Parce qu'il veut bien être très attentif et très amène, mais il ne faut pas être tyrannisé.
Et je dois dire que votre livre aussi, donc on arrive à la fin de l'entretien, votre livre m'a impressionné aussi par sa pudeur. Ça tenait, vous restez dans une grande retenue quand même, c'est assez... Ça m'a impressionné, c'est une espèce de marque de fabrique en fait. Parce qu'on peut avoir une fausse idée vu le sujet de l'intérimaire, tout ça, on peut avoir une fausse idée sur un univers sulfureux, tout ça, alors que c'est au contraire un univers tout de retenue, de vousoiement, comme si vous mettez beaucoup de temps avant de vous tutoyer.
Jean-Jacques et moi, oui. Oui, oui, moi, d'abord, il a continué de vousvoyer la Madame X, celle que j'appelle Madame X. Ils se sont toujours vousvoyés. Alors c'est Mouloudji m'avait dit que c'était un truc de Saint-Germain-des-Prés.
Ah oui.
Parce que Sartre et Beauvoir.
Sartre et Beauvoir.
Mais comme il avait ce côté toujours un peu avec distance, même pour poser la main pour tenir la main, il le faisait. C'était pas en passion ardente. Il montrait qu'il avait des sentiments et il posait la main sur la vôtre. Vous voyez, c'est là vous disiez que c'était le summum. Et puis après, si on allait partir un week-end, c'était très heureux, harmonieux. C'était des petits voyages de noces, mais c'était pas. C'est fini.
On peut dire que c'est fini. Oui. Bon, nous sommes sur Aligre FM 93.1. Dans la vie est un roman, et nous venons de parler de Au diable peau vert de Brigitte Lauzerecq.
Rec. Oui.
Merci, à la semaine prochaine.